Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Profession du père, de Sœur Chalandon, aux éditions Grasset.
Je suis venu avec un livre de Geneviève de Gaulle-Antonioz qui a été publié en juillet 1998, qui s'appelle La traversée de la nuit, où elle raconte sa déportation au camp de Ravensbrück. Et elle était très loin à ce moment-là de se douter qu'un jour elle rentrerait au Panthéon. La porte s'est refermée lourdement, je suis seul dans la nuit. À peine ai-je pu apercevoir les murs nus de ma cellule. En tâtonnant, je trouve le bas-flanc et sa couverture rugueuse et m'y allonge, en essayant de renouer avec le rêve interrompu. Tout à l'heure, je marchais sur un chemin éclairé par la lune, une lumière si douce, si bienfaisante, et des voix m'appelaient. Soudain, il n'y eut plus que le faisceau d'une lanterne, le visage effaré de notre chef de baraque, Lord Roque, de me lever, et l'ombre de deux SS, cauchemar ou réalité. Bâti et félicité, mes voisines de paillasse se sont réveillées. Elles ont rassemblé quelques objets, dont mon quart et ma gamelle m'ont aidé à descendre du chalet, m'ont embrassé. Quel sort m'attend? Il arrive que les exécutions aient lieu ainsi, de nuit. Pour le moment, je suis dans un bâtiment à l'intérieur du camp de Ravensbrück appelé Bunker. C'est une prison qui sert aussi de cachot. En ce cas, il n'y a pas de couverture ni de paillasse. Le pain est distribué tous les 3 jours, la soupe tous les 5 jours. La condamnation au bunker est accompagnée d'une bastonnade, 25, 50 ou 75 coups auxquels la détenue survit rarement. Nous savons tout ça au camp. Et aussi que des jeunes femmes cobayes, humains, ont subi dans ce lieu les horribles expériences du professeur Gebhardt. Je trouve que Geneviève de Gaulle-Antonioz avait cette particularité, c'est d'avoir vécu l'indicible, et de le dire avec les mots les plus simples. Il n'y a pas de pathos, il n'y a pas de pleurs dans ce qu'elle écrit. Nous sommes à l'os des mots. Et l'os des mots, moi, c'est ce que je trouve le plus fort, le plus beau, et le plus violent aussi. Donc, je me permets de venir avec ce livre, et je me permets de lire un peu de ce livre, parce qu'on sait ce qu'elle est devenue après. C'est-à-dire que ça, c'est la traversée de la nuit, mais Geneviève de Gaulle, après, c'est la traversée de la lumière. C'est-à-dire que moi, lorsque je lis ce livre, enfin, lorsqu'on va lire ce livre, la traversée de la nuit, on souffre avec elle, on espère avec elle, on lutte avec elle. Et je trouve ça, c'est l'inverse de la donneuse de leçons, c'est l'inverse de moi, j'ai vécu ça, c'est l'inverse. C'est voilà, moi, je vous raconte avec mon murmure, avec ma petite voix de petite souris, comment on s'en sort et comment on reste vivant. Et je ne dirais pas des choses définitives comme c'est une leçon de vie, etc. Pas du tout. C'est même pas une leçon de résistance. C'est une leçon de respiration. C'est comment on respire avec les cancres là. On a deux petits cancres là. Elle a deux petits cancres là. Elle les a nommés. Elle leur a donné un prénom, Félix notamment, qu'un SS va écraser d'un coup de botte. Et le SS, sans le savoir, il a tué Félix. Et je trouve que ces mots là. Et je trouve que lorsqu'elle sort vers l'espérance, c'est absolument bouleversant. Et c'est immortel, ce livre est immortel, c'est comme elle.
Alors prenez votre respiration, Sœur Chalandon, vous allez nous lire les premières pages de votre nouveau roman « Profession du père ».
Recueillement, samedi 23 avril 2011. Nous étions que nous, ma mère et moi. Lorsque le cercueil de mon père est entré dans la pièce, posé sur un chariot, j'ai pensé à une desserte de restaurant. Les croque-morts étaient trois. Visage gris, veste noire, cravate mal nouée, pantalon trop court, chaussettes blanches et chaussures molles. Ni digne, ni grave. Ils ne savaient que faire de leurs regards et de leurs mains, alors j'ai chassé un sourire. Mon père allait être congédié par des videurs de boîtes de nuit. Il pleuvait. Le crématorium, le parc, des arbres de circonstance, des fleurs tombales, un jardin de cimetière bordant une pièce d'eau, tout empestait le souvenir. On va voir s'il y a un poisson. Ma mère m'a regardé, elle a hoché la tête. Si tu veux. Nous avons marché jusqu'au bassin, elle s'appuyait sur mon bras, se déplaçait avec peine, regardait le sol pour ne pas faire un mauvais pas. Il y avait un poisson. Une carpe dorée entre les nénuphars. Je ne la vois pas. Elle ne voyait rien, ma mère, jamais. Elle n'avait vu. Elle plissait les yeux, elle cherchait de son mieux. La carpe jouait avec l'eau du rocher transformée en fontaine. Elle glissait sur le sable, fendait la surface, plongeait, remontait gueule ouverte, maraudait un peu d'air. Ma mère a secoué la tête. Non, non, il n'y a rien. Alors j'ai entouré ses épaules de mon bras, je l'ai serré contre moi, je me suis penché. Elle s'est penchée aussi. De la main, je suivais l'ondoiement paisible de l'animal. J'accompagnais son mouvement, je montrais le poisson. Elle regardait mon doigt. Elle était perdue, elle avait le visage sans rien. Pas un éclat, pas une lumière. Ses yeux très bleus ne disaient que le silence, ses lèvres tremblaient. Elle ouvrait une bouche de carpe. Il y avait un mort avant le nôtre, des dizaines de voitures, un deuil en grand. Nous étions le chagrin suivant. Notre procession, à nous, tenait à l'arrière d'un taxi. Ma mère s'est assise sur un banc dans le couloir de la salle de cérémonie et moi je suis resté debout, je voulais sortir, attendre dehors que tout soit fini. Je t'ai accompagné mais je ne rentre pas. Ma mère m'a regardé, tu vas rester sous la pluie ? Je n'ai pas répondu, c'était pas une question. Je suis allé au tableau de service, j'ai relu le nom de mon père à voix basse. C'était étrange de le voir là. Il m'était familier sur le cuivre d'une porte ou le papier d'une enveloppe, mais pas sur une liste mortuaire. André Choulan. Trois crémations avaient eu lieu le matin du 23 avril, trois autres étaient prévues dans l'après-midi. La fin de mon père était programmée entre celle d'Albert Blondel et de Jean Vial. Cercueil attendu à 14h45, ça faisait panneau indicateur, relevé de passage de train. J'étais en bout de quai, à consulter son heure de départ. Une femme est arrivée dans le couloir, une feuille à la main. « Vous venez pour le défunt ?»« Non, pour mon mari », a répondu ma mère. J'ai donné le nom de mon père, l'autre a regardé son papier, hoché la tête, et répété « Choulan », comme on tamponne un document. Puis elle a ouvert la double porte, s'effaçant pour nous laisser entrer. Elle semblait embarrassée. « Vous attendez quelqu'un d'autre ?» Ma mère m'a regardé. Fatina ne viendrait pas, Clément non plus. Ce lieu n'était ni pour ma femme, ni pour mon fils. Pas d'autres membres de la famille ? Nous deux, j'ai dit. Et je l'ai prise par le bras. La salle de reculement était immense, il y avait des dizaines de chaises. Ma mère a hésité, elle s'est assise devant, sans quitter des yeux à la porte qui nous faisait face. Les morts entraient par là. J'ai pris ma place à sa droite, sorti mon carnet de croquis et un éclat de fusain. Elle m'a regardé. « Tu vas pas dessiner quand même ?» Je n'ai pas levé la tête. « Pourquoi ?» Elle n'a pas répondu. Alors j'ai dessiné trois traits rapides. L'angle de la pièce, le plafond, le sol de carrelage gris, puis la porte en cuir roux, double battant, capiton et losange boutonné. J'ai ombré la plinthe écaillée, esquissé le tableau accroché au mur, une nature morte. Ma mère jetait des regards inquiets. La porte, mon dessin. Elle redressait son sac à main sur ses genoux et elle remuait ses lèvres. « Tu es sûr qu'il y avait un poisson ?» Je crayonnais une moulure du plafond, j'ai hoché la tête. « Une carpe, maman ?» Je suis passé à elle. Ses souliers fatigués, ses mains jointes, sa peau de veine bleue, ses cheveux raides et gris, sa robe du lundi. Dans son placard, ma mère avait un lourd manteau noir à boutons de nacre. « C'est un manteau pour le cimetière, » disait-il toujours. Son mari était mort, elle ne l'avait pas mis. À la place, elle avait choisi une pelisse tabac clair à galons rouges, aux poches et au col. Je l'ai portée deux fois, fallait bien que je la sorte du placard. La porte s'est ouverte en grand. J'ai rangé mon carnet. Je n'ai pas aimé le cercueil, c'était une simple caisse, un aggloméré de cellulose, un contreplaqué à écharde, un emballage de carton. Maman l'avait choisi. « C'est pour le brûler », avait-elle dit, elle a raison. Pourquoi j'étais au feu du bois de frêne avec côté galbé et couvercle en dôme? Pourquoi du satin blanc et une plaque d'identité dorée? Pourquoi la croix? Tout cela n'avait aucun sens, aucune importance. Alors poignée en résine et plaque de boîte aux lettres. Le putsch. Dimanche 23 avril 1961. C'est la guerre! Mon père a claqué la porte d'entrée. Il a crié ces mots sans relever son manteau. Il a répété « la guerre » sur le seuil de chaque porte. Le salon, la salle à manger, nous étions dans la cuisine, ma mère et moi. C'est la guerre, mon père, immense. Occupant tout le chambranle, j'épluchais trois carottes. Ma mère préparait un poireau. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il l'a regardé, sourcil français, ma mère et ses légumes. Il était mécontent. Il annonçait la guerre et nous n'avions qu'une pauvre soupe à dire. « Ce que je raconte ?» Geste brusque. Le journal est tombé sur la table au milieu des épluchures. Coup de force militaire à Alger, titrait François, publiant les photos de 3 soldats. Les militaires rebelles proclament l'état de siège. J'ai regardé le titre à l'encre noire. Mon père, ma mère. C'est la guerre, maman ? Ma mère a plié le journal et posé sur l'évier. Fini tes carottes, c'est ça, fini tes carottes, s'est moqué mon père. Elle grattait à la terre du poireau, coupait ses racines à petits gestes secs, découpait le blanc en fines rondelles. Moi, je rappelais les légumes avec un économe et lui nous observait. C'est tout ce que tu lui apprends à ton fils, la cuisine ? Ce dimanche 23 avril 1961, j'étais un enfant, né 12 ans, un mois et 6 jours plus tôt. Je préparais la soupe de la semaine avec ma mère et baissais la tête devant mon père. Elle lui a répondu que ce qui se passait à Alger ne me regardait pas, c'était une histoire politique, une affaire d'homme. Il a soupiré fort, il a quitté la cuisine, mais pas l'appartement. Lorsqu'il était en rage, il marchait jusqu'à Saint-Irénée à grands pas de soldat, puis il rentrait plus tard et sans un mot, claquait la porte, allait dans la chambre pour trouver le repos. Mais ce soir, il est resté, passait d'une pièce à l'autre comme un prisonnier en cours de promenade. Et ma mère, qui était la colère de son homme, a traversé pas. « Ce salaud parle à 8 heures !» a crié mon père. Il est revenu à la cuisine, s'est servi un verre d'eau. Il a scruté la ville par la fenêtre. Il attendait quelque chose que je ne savais pas. « Je veux que le gamin voie ça, c'est historique !» Il m'a enlevé la carotte de la main, s'est penché sur la table. « Un serment, tu sais ce que c'est ?» Je ne comprenais pas, j'ai protégé mon visage de mon bras replié. « Tu lui fais peur !» a protesté ma mère. « Mon père, voix mauvaise, eh bien cette grande ordure a renié son serment !» Puis il est retourné au salon et il a allumé la télévision. « Denise, Picasso, venez, ça va commencer !» Dans le canapé, mon père prenait toute la place. « C'est mon canapé !» il disait. Un jour, j'avais abîmé un mur de leur chambre en passant le balai. Un coupeau de plâtre arraché avec un bout du manche. Et il m'avait giflé parce que c'était son mur et c'était son balai. « Rien n'est ici à toi, tu m'entends ? Ni ta mère, ni à toi !» Dans le canapé, il s'asseyait jambes ouvertes, bras en croix, coude posé sur le dossier, laissant à ma mère une niche près de l'accoudoir. « Tu as ta chaise, lui disait-il. » Moi, j'étais assis par terre, adossé à la table basse. Mais ce soir, il a tapoté de la main l'endroit du canapé où je devais m'asseoir. Il voulait sa famille, les choulant au complet pour entendre le traître. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie. De Gaulle était habillé en soldat. Je regardais mon père, visage clos, du dégoût plein les lèvres. Je t'en foutrais du carteron de généraux, le jour tombait. À chaque phrase du général, il répondait en grondant. « Leur entreprise ne peut que conduire à un désastre national. C'est toi le désastre, connard. Au nom de la France, j'en donne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. C'est toi qu'on va réduire. Tu es mort, mon salaud. » Mon père s'est levé. Partisan ambitieux et fanatique, il marchait dans le salon en faisant de grands gestes brusques. L'aventure odieuse et stupide des insurgés, il se raclait la gorge, remontait son pantalon, claquait des mules sur le parquet. Le malheur plane sur notre patrie, il ricanait. Mais tu l'entends cette ordure ? Mais tu l'entends ? Ma mère hochait la tête. Elle avait le visage des soirs de bulletin scolaire. Lorsque nous attendions mon père, encombré de mes mauvaises notes. « Français, française, aidez-moi. On va t'aider à crever, oui. » Il a éteint la télévision, quitté la pièce, allumé le transistor. Il marchait dans l'appartement, radio écrasé contre son oreille, en répétant que le salaud s'était donné les pleins pouvoirs et l'attendait les prochaines informations. Édith Piaf chantait. Balayer les amours avec tous les trémolos. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Ma mère m'a regardé. Assis par terre, je m'endormais. Allez, viens, je t'emmène au lit. Elle m'a accompagné dans ma chambre, elle a tiré les rideaux d'un geste là, puis s'est penchée sur moi sans un baiser. Seul son regard. Il murmurait de ne pas m'en faire, que papa était comme ça, que c'était bien moins grave qu'il ne le disait, que demain tout serait fini. La voix de Piaf avait suivi mon père sur le balcon. Ma mère a fredonné, souriant dans l'obscurité. « Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. » J'ai sursauté. J'ai mis brusquement ma main sur sa bouche. Je l'ai supplié des yeux, même du balcon. Mon père aurait pu l'entendre. Il détestait que maman chante. Les chanteurs lui avaient fait trop de mal. J'ai donné, c'est un peu compliqué, puis en même temps assez simple à expliquer, mais dans chacun de mes 6 premiers romans, le père est là, il rôde. J'ai donné à certains de mes personnages son visage, son âge, sa façon d'être, sa violence. Il est dans Le Petit Bonzi, dans le premier, il est dans Une Promesse, il est dans Le Quatrième Mur, il est dans chaque roman. Et puis vient le moment où le père s'en va. Et le moment où le père s'en va, c'est le moment où, où on se met à travailler, où on passe à autre chose aussi. Et donc, ce livre-là, c'est le livre qui ne lira pas. Donc, c'est un livre que moi, son fils, j'ai pu écrire de façon, non pas légère, mais en tout cas sans crainte de l'abîmer et sans rancœur. Voilà, il s'appelle Profession du père et moi, j'ai fait ma profession de fils. Mais c'est pas une revanche, c'est pas un besoin de dire enfin ce que je n'ai pas pu dire parce qu'il était vivant. C'est juste en finir. Avec l'Irlande, j'en ai fini avec la trahison d'un ami, avec le quatrième mur, j'en ai fini avec l'obsession de la guerre qui m'empêchait de fermer les yeux et de dormir. Là, j'en finis avec une douleur d'enfance. Alors, on n'en finit pas toujours, mais je crois que j'en finis. En même temps, je la partage. Et voilà, je pense qu'un roman peut aussi non pas servir à ce que les plaies se cautérisent, parce que ça, je n'y crois pas. Ce sont des plaies recousues comme en temps de guerre, mal recousues avec du mauvais fil, des mauvaises aiguilles. Et donc les plaies sont visibles, elles se verront toujours. Mais en tout cas, je les partage, c'est-à-dire que je ne suis plus seul sous les coups. Alors c'est très particulier parce que généralement, chacun de mes romans a été associé à une musique qui m'a accompagné pendant toute l'écriture. Et j'ai découvert le Pieds Yesoud du Rufflet au moment où j'écrivais Retour à Killybegs, donc sur l'Irlande, et le Sospiri, donc ce disque de Cecilia Bartoli. J'ai pas pu m'en passer, c'est-à-dire que je n'arrive pas à passer à autre chose. Je trouve que c'est une musique d'écriture. Enfin, c'est une musique qui me convient. Je ne l'entends plus, je ne l'écoute plus. Elle remue en moi des choses sans même que je sache pourquoi. Et donc, je ne l'ai pas abandonnée. Donc, c'est très particulier parce que chaque musique est associée viscéralement à un texte. Et celui-là est associé viscéralement, mais de façon animale, à Retour à Killybegs. Puis, je l'ai gardé pour le quatrième mur. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le garder encore pour ce livre-là. Donc, ça fait donc près de maintenant 6 ans que chaque fois que j'écris, j'écoute. Je ne peux plus sortir de cette musique.
Merci, Sorge Chalando.
C'était Sorge Chalandon, qui présentait son roman Profession du père, à paraître aux éditions Grasset. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Stéphane Desmonts.